Le duc était à Imola, où il attendait les troupes françaises, mais presque sans soldats. Si bien que si Bentivoglio, qui tenait une partie du pays, et le duc d'Urbain, qui venait de reconquérir l'autre, avaient marché contre lui, il est probable, ou qu'il eussent pris, ou qu'il eussent contraint de fuir et de quitter la Romagne. D'autant plus que les deux hommes sur lesquels ils comptaient, c'est-à-dire dont Hugo de Cardone, qui était entré à son service après la prise de Capoue, et Michelotto, ayant mal suivi ses intentions, se trouvèrent tout à coup séparés de lui. En effet, il leur avait ordonné de se replier sur Rimini et de lui ramener 200 chevaux légers et 500 fantassins qu'il commandait. Mais ne connaissant pas l'urgence de sa situation, au moment où ils essayaient de s'emparer par surprise de la Pergola et de Fossombrune, ils furent entourés par Orsino Gravina et Vitellozzo. Hugo de Cardone et Michelotto se défendirent comme des lions, mais quelques efforts qu'ils firent, leur petite troupe fut taillée en pièces. Hugo de Cardone fut fait prisonnier et Michelotto n'échappa au même sort qu'en se couchant parmi les morts. Puis, la nuit venue, il se sauva à Fano. Cependant, tel qu'il était et presque sans troupes à Imola, les confédérés n'osèrent rien tenter contre César, soit par la crainte qu'il inspirait personnellement, soit qu'ils respectassent en lui l'ami du roi de France. Ils se contentèrent donc de s'emparer des villes et des forteresses environnantes. Vitellozzo avait repris les forteresses de Fossombrune, d'Urbain, de Cali et d'Agobbio. Orsino et Gravina avaient reconquis Fano et toute la province. Enfin, Jean-Marie de Varano, le même qui, par son absence, avait échappé au massacre de toute sa famille, était rentré à Camerino, porté en triomphe par son peuple. Rien de tout cela ne détruisit la confiance que César avait dans sa fortune, et tandis que, de notre côté, il pressait l'arrivée des troupes françaises et appelait à sa solde tous ces petits gentilshommes qu'on appelait des lances brisées, parce qu'ils couraient le pays avec 5 ou 6 cavaliers seulement, s'engageant au service de quiconque avait besoin d'eux, il avait entamé des négociations avec ses ennemis, certain que du jour où il les amènerait à une conférence, ils étaient perdus. En effet, César avait reçu du ciel le don fatal de la persuasion, de sorte que, si bien prévenu que l'on fût de sa duplicité, il n'y avait pas moyen de résister, non pas à son éloquence, mais à cet air de franche bonhomie qu'il savait si bien prendre et qui faisait l'admiration de Machiavel, lequel, si profond politique qu'il fût, se laissa plus d'une fois tromper par elle. Pour engager Paul Orsino à venir traiter à Imola, il envoya donc aux confédérés le cardinal Borgia en otage. Aussi, Paul Orsino n'hésita-t-il plus et arriva-t-il à Imola le 25 octobre 1502. Le duc de Valentinois le reçut comme un ancien ami dont on a été séparé quelques jours par des discussions légères et momentanées. Il avoua avec franchise que tous les torts étaient sans doute de son côté, puisqu'il s'était aliéné des hommes qui étaient à la fois de si loyaux seigneurs et de si braves capitaines. Mais, entre gens comme eux, il ajouta qu'une explication franche et loyale, comme celle qu'il donnait, devait remettre toutes choses dans le même état qu'auparavant. Alors, et comme preuve que ce n'était point la crainte, mais son bon vouloir qui le ramenait à eux, il montra à Orsino les lettres du cardinal d'Amboise qui lui annonçaient l'arrivée prochaine des troupes françaises. Il lui fit voir celles qu'il avait rassemblées autour de lui, désirant, ajouta-t-il, qu'ils fussent bien convaincus que ce qu'il regrettait le plus dans tout cela, ce n'était pas tant la perte qu'il avait faite de capitaines, si distingués qu'ils étaient l'âme de sa vaste entreprise, que d'avoir, d'une manière si fatale pour lui, laissé croire au monde qu'il pouvait avoir un seul instant méconnu leur mérite. Qu'en conséquence, il se fiait à lui, Paul Orsino, qu'il avait toujours aimé entre tous, pour amener les confédérés à une paix qui serait aussi profitable à tous que la guerre était nuisible à chacun, étant prêt à signer avec eux tout accommodement qui ne serait pas préjudiciable à son honneur. Orsino était l'homme qu'il fallait à César. Plein d'orgueil et de confiance en lui-même, il était convaincu du vieux proverbe qui dit que « Un pape ne peut régner 8 jours s'il a contre lui à la fois les Colonna et les Orsini ». Il crut donc, sinon à la bonne foi de César, du moins à la nécessité où il était de revenir à eux. En conséquence, sauf ratification, il signa avec lui, le 18 octobre 1502, les conventions suivantes que nous reproduisons telles que Machiavel les envoya à la magnifique République de Florence. Accord entre le duc de Valentinois et les confédérés. Qu'il soit notoire aux parties mentionnées ci-dessous et à tous ceux qui verront les présentes, que son Excellence le duc de Romagne d'une part et de l'autre les Orsini ainsi que leurs confédérés, désirant mettre fin à des différends, des inimitiés, des mésintelligences et des soupçons qui se sont élevés entre eux, ont résolu ce qui suit. Il y aura entre eux paix et alliances véritables et perpétuelles, avec un complet oubli des torts et des injures qui peuvent avoir eu lieu jusqu'à ce jour, se promettant réciproquement de n'en conserver aucun ressentiment. Et en conformité des dites paix et unions, Son Excellence le duc de Romagne reçoit dans ses confédérations, ligues et alliances perpétuelles, tous les seigneurs précités, et chacun d'eux promet de défendre les états de tous en général et de chacun en particulier contre toute puissance qui voudrait les inquiéter ou attaquer pour quelque cause que ce fût, exceptant toujours néanmoins le pape Alexandre VI et sa majesté très chrétienne Louis XII, roi de France. Promettant d'autre part et dans les mêmes termes les seigneurs susnommés de concourir à la défense de la personne et des états de son Excellence, ainsi qu'à celle des illustrissimes seigneurs, dont Guifry Borgia, prince de Squillace, dont Roderic Borgia, duc de Sermoneta et de Biselli, et dont Jean Borgia, duc de Camerino et de Nepi, tous frères ou neveux de son Excellence le duc de Romagne. De plus, comme la rébellion et l'envahissement du duché d'Urbain et de Camerino sont arrivés pendant les susdites mésintelligences, tous les confédérés précités et chacun d'eux s'obligent à concourir de toutes leurs forces au recouvrement des états ci-dessus et autres places et lieux révoltés et envahis. Son Excellence le duc de Romagne s'oblige à continuer aux Orsini et aux Vitelli leurs anciens engagements de service militaire et aux mêmes conditions. Elle promet de plus de n'obliger qu'un d'entre eux à leur choix de servir en personne. Le service que pourront faire les autres sera volontaire. Elle s'engage aussi à faire ratifier le second traité par le souverain pontife qui ne pourra obliger le cardinal Orsino à demeurer dans Rome qu'autant que cela conviendrait à ce prélat. En outre, comme il existe quelques différends entre le pape et le seigneur Jean Bentivoglio, les confédérés précités conviennent qu'ils seront remis à l'arbitrage sans appel du cardinal Orsino, de son Excellence le duc de Romagne et du seigneur Pandolfo Petrucci. S'engagent aussi les confédérés précités, tous et chacun d'eux, aussitôt qu'ils en seront requis par le duc de Romagne, à remettre entre ses mains comme otage un des fils légitimes de chacun d'eux et dans le lieu et dans le temps qu'il lui plaira d'indiquer. Promettant de plus les mêmes confédérés, tous et chacun d'eux, si quelque projet tramé contre l'un d'eux venait à leur connaissance, de l'en avertir et de s'en prévenir tous réciproquement. Il est convenu, outre cela, entre les ducs de Romagne et les susdits confédérés, de regarder comme l'ennemi commun quiconque manquerait aux présentes stipulations et de concourir tous à la ruine des États qui ne s'y conformeraient pas. Signé César, Paul Orsino, Agapi, secrétaire. En même temps qu'Orsino reportait aux confédérés le traité rédigé entre lui et le Valentinois, Bentivoglio, ne voulant pas se soumettre à l'arbitrage indiqué, offrait à César de terminer leur différend par un traité particulier et lui envoyait son fils pour en rédiger les conditions. Après quelques pourparlers, elles furent arrêtées ainsi qu'il suit. Bentivoglio détacherait sa fortune de celle des Vitelli et des Orsini. Il fournirait pendant 8 ans au duc de Valentinois 100 hommes d'armes et 100 albalétriers à cheval. Il paierait 12 000 ducats par année à César pour l'entretien de 100 lances. Moyennant quoi, son fils Hannibal épouserait la sœur de l'évêque d'Aisne, qui était nièce du duc de Valentinois, et le pape reconnaîtrait sa souveraineté sur Bologne. Le roi de France, le duc de Ferrare et la République de Florence devaient être les garants de ce traité. Cependant, la convention Corsino reportait aux confédérés éprouvait de leur part de vives difficultés. Vitellozzo Vitelli, surtout, qui était celui qui connaissait le mieux César, ne cessait de répéter aux autres condottieri que cette paix était trop prompte et trop facile pour ne pas cacher quelques pièges. Mais comme, pendant ce temps, le duc de Valentinois avait amassé une armée considérable à Imola, et que les 400 lances que lui prêtait Louis XII étaient enfin arrivées, Vitellozzo et Oliverotto se décidèrent à signer le traité apporté par Orsino et à le faire signifier au duc d'Urbain et au seigneur de Camerino, qui, comprenant qu'il leur était désormais impossible de se défendre seuls, se retirèrent l'un à Città di Castello et l'autre dans le royaume de Naples. Cependant, le duc de Valentinois, sans rien dire de ce qu'il comptait faire, se mit en route le 10 décembre, se dirigeant sur Cézène avec la puissante armée qu'il avait réunie sous son commandement. Aussitôt, tout commença de s'épouvanter, non seulement en Romagne, mais dans toute l'Italie septentrionale. Florence, qui le voyait s'éloigner d'elle, craignait que cette marche n'eût d'autre but que de déguiser son intention, et Venise, qui le voyait s'approcher de ses frontières, avait envoyé toutes ses troupes sur les rives du Pô. César s'aperçut de cette crainte, et comme elle pouvait nuire à ses projets en inspirant de la défiance, il congédia, en arrivant à Cézène, tous les Français qui étaient à son service, à l'exception de 100 hommes d'armes que commandait M. de Candale, son beau-frère. De sorte qu'il se trouva n'avoir plus autour de lui que 2000 hommes de cavalerie et 10 000 fantassins. Quelques jours se passèrent en pourparlers, car le duc de Valentinois avait trouvé dans cette ville des envoyés des Vitelli et des Orsini, lesquels étaient à la tête de leur armée dans le duché d'Urbain. Mais dès les premières discussions sur la marche à suivre dans la continuation de la conquête, il s'éleva de telles difficultés entre le général en chef et ses agents qu'ils comprirent eux-mêmes qu'on ne pouvait rien arrêter par intermédiaire et qu'une conférence entre César et l'un de ses chefs était urgente. En conséquence, Oliverotto da Fermo se risqua et vint joindre le duc de Valentinois pour lui proposer de marcher sur la Toscane ou de s'emparer de Sinigaglia, qui était la dernière place du duché d'Urbain, qui ne fut pas retombée au pouvoir de César. César répondit qu'il ne voulait point porter la guerre en Toscane parce que les Toscans étaient ses amis, mais qu'il approuvait le projet de ses lieutenants sur Sinigaglia. En conséquence, il se mit en marche pour Fano. Cependant, la fille de Frédéric, précédent duc d'Urbain, qui tenait la ville de Sinigaglia et qu'on nommait la préfétesse parce qu'elle avait épousé Jean de la Rovère, que son oncle Sixte IV avait nommé préfet de Rome, jugeant qu'il lui serait impossible de se défendre contre les forces qu'amenait avec lui le duc de Valentinois, laissa la citadelle aux mains d'un capitaine à qui elle recommanda d'obtenir pour la ville les meilleures conditions possibles et s'embarqua pour Venise. Le duc de Valentinois apprit cette nouvelle à Rimini par un messager de Vitellozzo et des Orsini qui lui annonça que le gouverneur de la citadelle, qui avait refusé de la leur remettre, était tout prêt à traiter avec lui, qu'en conséquence, il l'engageait à se rendre dans cette ville pour terminer cette affaire. César leur fit répondre qu'en conséquence de l'avis qu'il lui donnait, il renvoyait à Cézène et à Imola une partie de ses troupes, qu'elle lui était inutile puisqu'il avait les leurs, qui, réunis à l'escorte qu'il gardait, serait suffisante, n'ayant point d'autre projet que la pacification complète du duché d'Urbain, mais que cette pacification était impossible si ses anciens amis continuaient à se défier de lui, au point de ne débattre que par des agents intermédiaires, des plans auxquels leur fortune était intéressée aussi bien que la sienne. Le messager retourna avec cette réponse vers les confédérés, qui, tout en sentant la vérité de l'observation de César, n'en hésitèrent pas moins à faire ce qu'il demandait. Vitellozzo Vitelli, surtout, montrait contre le duc de Valentinois une défiance que rien ne semblait pouvoir vaincre. Enfin, pressé par Oliverotto, Gravina et Orsino, il consentit à attendre le duc, mais cela bien plus tôt pour ne point paraître à ses compagnons plus timides qu'ils ne l'étaient eux-mêmes, que par l'effet de la confiance qu'il avait dans ce retour d'amitié que manifestait Borgia. Le duc a pris cette décision tant désirée par lui en arrivant à Fano le 20 décembre 1502. Aussitôt, il appela près de lui 8 de ses plus fidèles, parmi lesquels étaient messieurs Dena, son neveu, Michelotto et Ugo de Cardona, et leur ordonna, aussitôt qu'ils seraient arrivés à Sinigaglia et qu'ils verraient Oliverotto, Gravina, Vitellozzo et Orsino venir au-devant de lui, d'avoir, comme pour lui faire honneur, à se placer à leur droite et à leur gauche, deux pour un seul, de manière à ce qu'ils pussent, à un signal donné, ou les arrêter, ou les poignarder. Puis il désigna à chacun d'eux celui auquel ils devaient s'attacher, leur recommandant de ne le quitter que lorsqu'il serait entré dans Sinigaglia et arrivé au logement préparé pour lui. Puis, envoyant des ordres à ceux de ses soldats qui étaient cantonnés dans les environs, il leur fit savoir qu'ils eussent à se rassembler au nombre de 8000 sur les rives du Métaure, petit fleuve de l'Ombrie, qui se jette dans la mer Adriatique et qu'a illustré la défaite d'Asdrubal. Le duc arriva au rendez-vous donné à son armée le 31 décembre et fit partir aussitôt devant lui 200 hommes de cavalerie, fit marcher l'infanterie immédiatement après elle, puis se mit à son tour en route au milieu de ses gendarmes, suivant le bord de l'Adriatique et ayant à sa droite les montagnes et à sa gauche la mer, quelquefois si resserrées entre elles, au reste, que l'armée ne pouvait passer à plus de 10 hommes de front. Au bout de 4 heures de marche, le duc, à un tournant du chemin, aperçut Sinigaglia, située à 1 mille de la mer à peu près et à un trait de flèche des montagnes. Entre l'armée et la ville coulait une petite rivière dont il lui fallut quelque temps côtoyer les bords en les descendant. Enfin, il trouva un pont jeté en face d'un faubourg de la ville. Là, le duc de Valentinois ordonna à sa cavalerie de s'arrêter. Elle se plaça en deux files, l'une entre le chemin et le fleuve, l'autre du côté de la campagne, laissant toute la largeur de la route à l'infanterie qui défila, passa le pont et, s'enfonçant dans la ville, alla se mettre en bataille sur la grande place. De leur côté, Vitellozzo, Gravina, Orsino et Oliverotto, pour faire place à l'armée du duc, avaient cantonné leurs soldats dans de petites villes ou des villages aux environs de Sinigaglia. Oliverotto seul avait conservé à peu près 1000 fantassins et 150 cavaliers qui avaient leur caserne dans le faubourg par lequel entrait le duc. À peine César avait-il fait quelques pas vers la ville qu'il aperçut à la porte Vitellozzo, le duc de Gravina et Orsino qui venaient au-devant de lui, les deux derniers assez gais et confiants, mais le premier si triste et si abattu qu'on eût dit qu'il devinait le sort qu'il attendait. Et sans doute, en effet, en avait-il eu quelque pressentiment, car, au moment où il quitta son armée pour venir à Sinigaglia, il lui avait fait ses adieux comme s'il ne devait pas la revoir, avait recommandé sa famille à ses capitaines et avait embrassé ses enfants en versant des larmes, faiblesse qui avait paru étrange à tous de la part d'un si brave condottiere. Le duc marcha à eux et leur tendit la main en signe d'oubli et avec un air si loyal et si riant que Gravina et Orsino ne conservèrent plus aucun doute sur le retour de son amitié et qu'il n'y eut que Vitellozzo Vitelli qui demeura dans la même tristesse. Au même instant, et comme la chose leur avait été recommandée, les affidés du duc prirent leur place à la droite et à la gauche de ceux qui devaient surveiller et qui étaient tous là, à l'exception d'Oliverotto, que le duc ne voyait pas et commençait à chercher des yeux avec inquiétude. Mais, en traversant le faubourg, il l'aperçut qui exerçait sa troupe sur la place. Aussitôt, il lui dépêcha Don Michel et M. Dénat, qui étaient chargés de lui dire qu'il était imprudent de faire sortir ainsi ses troupes, qui pouvaient se prendre de querelle avec celles du duc et amener une rixe, que mieux valait, au contraire, les consigner dans leur caserne et venir rejoindre ses compagnons, qui étaient près de César. Oliverotto, que son destin entraînait avec les autres, ne fit aucune objection, ordonna à ses soldats de rentrer dans leur logement et mit son cheval au galop, escorté de chaque côté par M. Dénat et par Michelotto, pour rejoindre César. César, dès qu'il le vit, l'appela, lui tendit la main et continua sa marche vers le palais qui lui était destiné, ayant ses 4 victimes à sa suite. Arrivé au seuil, César descendit le premier, et, ayant fait signe au chef de ses gendarmes d'attendre ses ordres, il entra le premier, suivi d'Oliverotto, de Gravina, de Vitellozzo Vitelli et d'Orsino, chacun toujours accompagné de ses 2 acolytes. Mais à peine eurent-ils monté l'escalier et furent-ils entrés dans la première chambre que la porte se referma derrière eux et que César se retourna en disant « Voilà l'heure !» C'était le signal convenu. Aussitôt, chacun des anciens confédérés fut saisi et renversé et, le poignard sur la gorge, forcé de rendre ses armes. En même temps, et tandis qu'on les conduisait dans un cachot, César ouvrit la fenêtre et, s'avançant sur le balcon, cria au chef de ses gendarmes « Allez !» Le chef était prévenu. Il s'élança avec sa troupe vers les casernes où l'on venait de consigner les soldats d'Oliverotto, et ceux-ci, surpris sans défiance et à l'improvise, furent aussitôt faits prisonniers. Puis la troupe du duc se mit à piller la ville, et lui fit appeler Machiavel. Le duc de Valentinois et l'envoyé de Florence demeurèrent à peu près 2 heures enfermés ensemble, et comme Machiavel lui-même raconta le sujet de cette entrevue, nous allons rapporter ses propres paroles. « Il me fit appeler, dit le légat florentin, et me témoigna de l'air le plus serein la joie que lui causait le succès de cette entreprise, dont il m'assura m'avoir parlé la veille, ce que je me rappelais, quoique je n'eusse pas compris alors ce qu'il me voulait dire. Il m'expliqua ensuite, en termes très sensés et pleins de la plus vive affection pour notre ville, sur les divers motifs qui lui faisaient désirer votre alliance, désir auquel il espérait que vous répondriez. Il a fini par m'engager à faire 3 invitations à vos seigneuries. La première, que vous vous réjouissiez avec lui d'un événement qui faisait disparaître d'un seul coup les mortels ennemis du roi, les siens et les vôtres, et qui détruisait toutes les semences de troubles et de dissensions propres à dévaster l'Italie. Service qui, joint au refus qu'il avait fait aux prisonniers de marcher contre vous, devait exciter votre reconnaissance à son égard. La seconde, de vous prier de lui donner, dans cette circonstance, une preuve éclatante de votre amitié, en faisant pousser votre cavalerie vers Borgo et en y rassemblant des troupes de pied, afin de pouvoir, selon le besoin, marcher avec lui sur Castel ou sur Pérouse. Il désire enfin, et c'est la troisième chose qu'il réclame de vous, que vous fassiez arrêter le duc d'Urbain, s'il se réfugiait de Castel ou sur vos terres en apprenant la détention de Vitellozzo. Comme je lui objectais qu'il ne serait point de la dignité de la République de le lui livrer, et que vous n'y consentiriez jamais, il approuva mon observation et me dit qu'il suffisait que vous le retinssiez et ne lui rendissiez pas la liberté sans sa participation. J'ai promis à son Excellence de vous mander tout ceci dont elle attend la réponse. La même nuit, 8 hommes masqués descendirent dans le cachot où étaient les prisonniers, qui crurent alors que l'heure fatale était venue pour tous. Mais les bourreaux n'avaient affaire pour le moment qu'à Vitellozzo Vitelli et à Oliverotto. Lorsqu'on signifia à ces 2 capitaines leur condamnation, Oliverotto éclata en reproches contre Vitellozzo Vitelli, lui disant que c'était lui qui était cause qu'il avait pris les armes contre le duc. Quant à Vitellozzo Vitelli, la seule chose qu'il dit fut qu'il priait le pape de lui accorder indulgence plénière pour tous ses péchés. Alors les hommes masqués les firent sortir tous deux, laissant Orsino et Gravine attendre à leur tour un sort pareil, et emmenèrent ces élus de la mort dans un lieu écarté, en dehors des remparts de la ville, où ils furent étranglés, et où on les enterra aussitôt dans 2 fosses creusées d'avance à cet effet. Les 2 autres avaient été gardés vivants jusqu'à ce qu'on sût si le pape avait de son côté fait arrêter le cardinal Orsino, l'archevêque de Florence et le seigneur de Sainte-Croix. Aussi, dès qu'on eut reçu de sa sainteté la réponse affirmative, Gravina et Orsino, qui avaient été transférés au château de la Pierre, furent étranglés à leur tour. Quant au duc, après avoir laissé ses instructions à Michelotto, il était parti de Sinigaglia, aussitôt la première exécution faite, en assurant à Machiavel qu'il n'avait jamais eu d'autre pensée que celle de rendre la tranquillité à la Romagne et à la Toscane, et qu'il croyait y avoir réussi par la prise et la mort de ceux-là qui étaient la cause de tous les troubles, et que, quant aux autres révoltes qui pourraient avoir lieu désormais, ce ne serait plus que des étincelles qu'une goutte d'eau pourrait éteindre.